les podcasts de Radio Vatican.
Les tensions sont toujours fortes autour de la péninsule coréenne. Après le discours musclé de Donald Trump menaçant de détruire totalement la Corée du Nord, Pyongyang a répondu sur le même ton « Je ferai payer cher à l'homme à la tête du commandement suprême aux États-Unis ». Son discours appelant à la destruction totale de la Corée du Nord a réagi Kim Jong-un, déplorant que le président américain l'ait insulté, lui et son pays, sous les yeux du monde entier. La Russie, mais aussi la Chine, tentent d'apaiser les esprits. Pékin comme Moscou plaident depuis le début pour une solution négociée, mais pas sûr que ce soit suffisant pour François Godeman, directeur du programme Asie au Conseil européen pour les relations internationales.
Pour l'instant, et sous réserve de conversations secrètes qu'on ne connaîtrait pas, la proposition chinoise est absolument vide. Il n'y a aucune nouveauté par rapport à l'exigence qui avait été posée par la Chine et par la Russie d'ailleurs, de ce qu'on appelle un double gel, c'est-à-dire en échange d'une pause dans les essais nucléaires et balistiques nord-coréens, qui, il faut le rappeler, sont illégaux, les États-Unis et la Corée du Sud arrêteraient leurs manœuvres communes, qui elles sont légales, si vous voulez. C'est une condition qui ne peut pas être rempli pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que la Corée du Nord a toujours profité de ces pauses pour avancer dans la mise au point de son programme. Et ensuite parce que ça revient de la part des États-Unis à renoncer à l'aspect le plus pratique de la garantie de sécurité que constitue le traité entre la Corée du Sud et les États-Unis. Donc je crois que la Chine et la Russie donnent l'apparence de pousser pour le dialogue, mais on ne voit pas les propositions plus innovatrices, notamment en direction de Pyongyang, par exemple contrainte, par exemple vérification, qui permettrait de crédibiliser cette ouverture.
La Corée du Sud, alliée des États-Unis, est évidemment au premier plan de cette crise. Séoul a fait part de ses craintes évidentes d'un effondrement du régime nord-coréen. Quelles seraient vraiment les conséquences pour le nouveau président ?
C'est assez paradoxal que le président sud-coréen redoute l'effondrement du régime nord-coréen. En soi, ce serait la meilleure nouvelle possible pour la péninsule coréenne. Je crois que ce qu'il veut plutôt dire, c'est qu'il redoute le conflit, le chaos qui pourrait accompagner et d'ailleurs provoquer cet effondrement. Le président sud-coréen n'ose plus tout à fait dire qu'il est opposé à toute intervention de force, si vous voulez. Quand on en est à un stade où le dirigeant nord-coréen menace de faire exploser une bombe thermonucléaire au-dessus du Pacifique, on comprend qu'on a franchi un seuil du côté du chantage nord-coréen. Et je crois qu'au stade actuel, ce que communique surtout cette déclaration sud-coréenne, c'est le sentiment d'être sans prise, sans moyen d'action sur la situation.
On a le sentiment de beaucoup d'impuissance au-delà des rhétoriques guerrières et du match, si j'ose dire, Trump-Kim Jong-un. Est-ce que ce sentiment d'impuissance a déjà été aussi fort et aussi inquiétant qu'aujourd'hui ?
En réalité, cela fait deux décennies qu'on retarde le moment de vérité concernant le nucléaire et le balistique nord-coréen. Il y a eu quantité d'accords jamais respectés par la Corée du Nord. Il y a eu quantité de manœuvres dilatoires et en particulier sous la présidence Obama, l'adoption de ce que le président avait qualifié de patience stratégique vis-à-vis de la Corée du Nord. On voit où ça nous a mené. Je ne suis pas d'accord, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir sur les modes d'expression de Donald Trump et sur sa tendance à l'emphase rhétorique, je ne suis pas d'accord pour mettre sur le même plan les États-Unis qui n'ont fondamentalement jamais changé de position, qui ont négocié à plusieurs reprises avec la Corée du Nord, qui ont des traités d'alliance aussi bien avec la Corée du Sud que le Japon, par exemple. Et la démarche non seulement provocatrice, mais clairement menaçante de Kim Jong-un. On peut d'ailleurs faire des parallèles avec d'autres pays qui ont accédé à l'arme nucléaire. Il y en a un qui est fait souvent avec le Pakistan. Le Pakistan n'a jamais proféré de menaces concernant l'emploi du nucléaire, autre que strictement défensive, en cas d'invasion du territoire pakistanais. L'arme nucléaire et balistique est brandie absolument comme une forme de chantage qui pourrait s'exercer si cela passait sur beaucoup de terrains et pas seulement sur la défense du territoire nord-coréen.
Est-ce qu'aujourd'hui, François Godeman, le scénario d'une guerre totale est vraiment crédible? Une guerre États-Unis, Japon, Corée du Sud contre la Corée du Nord, est-ce que ces scénarios sont dans les cartons? Est-ce qu'il y a déjà des stratégies qui se dessinent?
Les scénarios en eux-mêmes sont forcément dans les cartons des établissements de défense concernés parce que ça fait partie de leur mission. Mais je voudrais vous mettre en garde contre une tendance des médias, soit à se tordre les mains en disant il n'y a rien à faire et par conséquent, au fond, il faut céder à la Corée du Nord, la reconnaître comme état nucléaire, en attendant d'ailleurs qu'elle développe plus avant ses armes et qu'elle ne fasse un usage plus étendu du chantage. Et l'autre alternative qui serait Armageddon, si j'ose dire, le conflit total, très différent d'ailleurs de la première guerre de Corée en raison de la présence d'armes nucléaires des deux côtés. Je crois qu'entre les deux, et c'est probablement ce qu'étudient de la façon la plus fine les établissements de défense concernés, il y a probablement des actions de force plus limitées constituant des coups d'arrêt et des tests de volonté en ce qui concerne le régime nord-coréen. Il faut quand même souligner que aussi grave, aussi dramatique que soient les dommages qu'un conflit entraînerait de part et d'autre, pour le régime nord-coréen, c'est tout de même un suicide assuré.
Par voie de conséquence, l'effondrement du régime de Pyongyang, ce suicide dont vous parlez, comment la Corée du Sud et Moon Jae-in, qui lui est dans une perspective de tendre la main et de réunir les deux Corées, comment peut-il hériter finalement de ce pays du Nord voisin et frère et ennemi en même temps ?
Écoutez, c'est quand même une simplification complète de présenter l'attitude sud-coréenne comme avec effectivement un nouveau président élu par une base qui est traditionnellement pacifiste. C'est tout de même outrancier de résumer sa politique en disant qu'il tend la main. Il vient au contraire, il y a moins de deux semaines, de déclarer que le dialogue était désormais impossible. Le régime a commandé des centaines de missiles conventionnels Taurus qui sont destinés à pénétrer Bunker. Il a mis en place une force destinée à tuer les dirigeants nord-coréens au besoin par les opérations spéciales, il est évident que le gouvernement sud-coréen lui-même, quelles que soient bien sûr les déclarations sur la nécessité d'un dialogue que tout le monde souhaite, est obligé de se préparer à d'autres hypothèses. Je ne crois pas qu'on puisse simplifier de cette manière-là la position du gouvernement sud-coréen. Que cela gêne considérablement le président Moon Jae-in, vu ses options fondamentales, si vous voulez, c'est certain. Mais après tout, n'oubliez pas que la présidente Park et même le président Lee Myung-bak, dans la dernière phase de son mandat, comptait énormément sur le gouvernement chinois pour ramener la Corée du Nord à la raison. Cela s'est avéré impossible.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.